Bien, soyez bénis. Que Dieu soit glorifié encore à travers ces moments. Éternel Dieu, nous te louons et nous bénissons pour toutes choses parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu es majestueux, tu règnes. Mais aussi, Seigneur, tu es un Dieu redoutable. Qui, Seigneur, peut subsister devant ta face? Mais tu nous as fait grâce en nous choisissant, en nous appelant des ténèbres à ton admirable lumière, et nous pouvons nous tenir dans ta présence, dans le lieu très saint. Et Seigneur, ce privilège, nous ne voulons pas le jeter au pourceau, mais nous voulons, jour après jour, t'être reconnaissants pour ces moments si importants, si précieux. Alors merci Seigneur pour cette fin de culte, et que ton nom soit béni, que tu puisses parler dans les cœurs et continuer à agir dans ta grâce et dans ta miséricorde. Alléluia. Il y a des mots qui sont des fois mal interprétés ou mal compris dans la parole de Dieu. Souvent, lorsqu'on entend le mot avertissement, on pense à sanction ou punition, alors que ce n'est pas du tout le mot que Dieu retient. Quand vous lisez les principes de la prophétie, encouragement, exhortation, édification et consolation, exhortation, ça veut dire avertissement quelque part. C'est une forme moins importante d'une correction, mais c'est un avertissement. Et lorsque Dieu avertit, c'est justement pour que nous ne soyons pas surpris lorsque le loup apparaît, en restant très, très gentil. En fait, tout le long de sa parole, Dieu avertit. Depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu avertit de ce qu'il fait, parce qu'il ne nous laisse pas dans le doute, et de ce qu'il va faire, ou même il nous rappelle ce qu'il a fait. C'était toujours une forme d'avertissement. Et là, dans ce que Dieu a déposé dans mon cœur, je vous avais parlé la dernière fois à la fin de ma prédication, je vous avais dit que le Seigneur avait déposé sur mon cœur un titre que je vous redis. L'Église qui s'excuse sera-t-elle excusée? L'Église qui s'excuse sera-t-elle excusée? Donc, ce n'est pas dit qu'elle ne le sera pas. C'est un point d'interrogation. Et avant de commencer le passage sur lequel Dieu pose cette parole, je voudrais simplement lire quelque chose que Pierre dit concernant les temps. Or, moi, je voudrais faire une différence entre ce que le monde vit, ce qu'Israël vit, et ce que l'Église vit. Ce sont trois choses différentes. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire d'amalgame. Parce que je ne suis pas du monde. Donc, je n'ai pas à craindre ce que le monde craint. Et d'une, je prie et je bénis Israël, parce que c'est Dieu qui nous encourage, et que c'est mon cœur de bénir et d'encourager et de prier pour Israël. Mais je ne suis pas Israël. Moi, je suis l'Église de Christ. Et c'est trois choses tout à fait différentes. Donc, je ne veux pas faire d'amalgame. Mais par contre, ce qui me concerne selon la parole de Dieu, je veux y prendre un intérêt particulier parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Et Pierre dit, non, celui-là tu ne l'as pas, hein, Romain, c'était un rajout qui vient là. 1 Pierre 4 au verset 17, il dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » En gros, ça veut dire que malgré tout ce que l'on vit, notre vision à nous, c'est de continuer à marcher et à servir le Christ en faisant le bien. Et la différence qu'il y a entre un chrétien né de nouveau et un autre, c'est une conscience purifiée. Parce que c'est la conscience qui nous permet de comprendre ce qui est bon de ce qui est mauvais. Tant que la conscience est souillée, on ne sait pas. C'est un amalgame et on dit n'importe quoi. Or, aujourd'hui, on entend n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas la compréhension divine de la parole de Dieu, celle qui est en nous par le Christ ressuscité. Donc, c'est une première chose. Si Dieu commence à parler et à juger son Église, elle commence à préparer les cœurs Beaucoup disent, nous sommes dans les derniers temps, et c'est une réalité, hein, mais afin d'éviter le pire, il vaut mieux déjà être corrigé. Il y a une parole que l'on dit dans le monde, vaut mieux prévenir que guérir. D'accord ? Sauf que dans cette situation-là, Dieu prévient, mais il n'y aura pas de guérison. Parce qu'une fois qu'on sera devant le tribunal de Christ, c'est fini. Il n'y aura plus de guérison. Lorsqu'il nous mettra en lumière, et qu'il mettra en lumière la situation, il n'y aura pas la possibilité de se repentir. Donc l'avertissement, c'est tu grilles un feu, tu ne te fais pas attraper, tant mieux pour toi. Tu grilles un feu, il y a la police, il n'y a pas de guérison. Tu payes. Vous comprenez ? Mais on avait le choix de s'arrêter au feu ou de passer. Quand on se fait attraper, on se fait attraper. Et en fait, quelque part, c'est comme ça que l'Église, corps de Christ, joue en ce moment. Il joue avec le feu, griller les feux. Mais le jour où on se fait attraper, ben, il faut être honnête. Alors, sur ce titre, l'Église qui s'excuse sera-t-elle excusée ? C'est le passage de Luc qu'on connaît, Luc 14, de 15 à 24. Je vais le lire, vous l'avez derrière vous. Il est dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Alors du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. » « Je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pour ça que je ne puis aller. » Lui, il ne s'est même pas excusé. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. C'est terrible là, parce que si on regarde bien et si on prend à la lettre ce que dit le Seigneur, ça voudrait dire que tous ceux qui unanimement se sont excusés n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va être clair. Encore une fois, Dieu prévient, il avertit ce qui risque d'arriver si on lui tourne le dos ou si on dénigre ses avertissements à travers la parole et si on oublie d'écouter ce que Dieu dit. C'est important. Personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant « je ne savais point » ou « je ne savais pas ». Parce que Dieu, d'une façon ou d'une autre, il parle. À nous de savoir écouter et surtout d'obéir. Donc, quand Jésus raconte cette histoire, il parle d'un grand homme qui a la possibilité de faire un repas et il invite beaucoup de personnes pour les noces. Puisque dans un autre passage, on parle de noces. Pour moi, cette histoire préfigure les derniers temps que l'on vit. Une préfiguration, c'est symbolique. Et surtout, lorsque nous lisons la parole de Dieu, faisons attention de ne pas traduire terre à terre. C'est-à-dire, le jour des noces est un jour et la veille, parce que vous imaginez qu'au moment où ils étaient invités et qu'ils ne viennent pas, entre le moment où ils vont chercher tous ceux dans les rues et qu'ils se présentent au repas des noces, ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. La Bible, elle dit ça. Elle raconte une histoire qui peut être relatée dans des faits réels, mais ne mettez pas un jour comme étant un jour que l'on vit nous. La parole de Dieu, il faut la lire comme Dieu nous l'enseigne. Alors, il est dit que dans cette situation, le Seigneur montre qu'en fait, beaucoup de personnes ont reçu une invitation. Et cette invitation ne vient pas de n'importe qui, elle vient d'un grand homme. Et j'entends, moi, dans mon esprit, les gens qui se retrouvent entre nous au milieu en disant « Hey, Jeanne, tu l'as reçu l'invitation ?»« Béa, tu l'as reçu l'invitation ?»« D'accord ?»« Nathalie, tu l'as reçu l'invitation ?» Et on se pose des questions. Et tout le monde dit « Ouais, je l'ai. » Elle est là, l'invitation. Vous savez ce que ça veut dire, l'invitation? Hein? L'invitation, salut par grâce. Oui, je l'ai. Ah, toi aussi? Oh, punaise. Oh là là, je suis content de te voir au milieu de nous. L'église est belle, elle est merveilleuse, le corps de Christ est fantastique, c'est l'invitation. On est invité au repas des noces. C'est de la réjouissance, ça. On est heureux. Mais, le repas des noces, quelque part, il y a un problème, c'est que ce n'est pas marqué la date. Mais le maître, quand il envoie l'invitation, demande quelque chose de spécial. Il dit, je vous envoie cette invitation, mais j'aimerais que vous me répondiez simplement par oui ou par non. C'est tout. C'est ce qu'attend le maître. Il dit, vous inquiétez pas, ça se fera à peu près à cette époque-là, mais j'attends de vous une réponse de façon à ce que je puisse préparer le repas en fonction du nombre de personnes. Aujourd'hui, charnellement parlant, ceux qui font des mariages, si vous invitez 100 personnes et que vous préparez 100 repas et qu'il en arrive 80, vous devez payer les 20 repas qui ont été commandés. Donc, c'est pas sympa pour les mariés quand vous voyez les gens qui se désistent l'un après l'autre. C'est financièrement, c'est un coût. Et puis même émotionnellement, on se dit, tiens, on se pose des questions. Donc, il y a beaucoup d'émotions là-dedans, dans ce qu'on va partager. Parce qu'il y a beaucoup de réalités que l'on vit tous les jours. Et il y a beaucoup d'attentes de la part de Jésus et de nous. Jésus a une attente envers nous. Jésus a une attente envers nous. Et donc, si la réponse est oui, et que l'on dit, ok Seigneur, je serai présent à ce moment-là, c'est qu'on doit être prêt à un moment donné que l'on ait la date officielle. Donc on va tout faire pour que on garde à peu près cette période en vue et on ne va rien prévoir pour ce moment-là. On ne va rien prévoir. En gros, si quelqu'un vous dit, je vais me marier en juin 2025, eh bien, même si vous n'avez pas la date exacte, vous savez qu'en juin, vous n'allez prendre aucun rendez-vous. Vous allez garder vos week-ends, vous avez un an et demi devant vous, vous dites, j'ai le temps, donc je vais privilégier le mariage, et puis ces 4 week-ends, on verra, ils appartiennent aux mariés. Donc, c'est ce qui se passe. Et là, il y a un souci, c'est qu'à un moment donné, le repas arrive. Eh oui, le repas arrive. Et donc, le marié dit au serviteur, allez voir tous ceux que j'ai invités, et maintenant il est bon de les prévenir que demain ou après-demain, enfin, une date bien précise, on fait la fête, on se réjouit, on va manger ensemble, on va se bénir mutuellement. Et au moment où les serviteurs vont voir ces invités, il y a une parole qui est troublante. Tous, unanimement, c'est comme s'ils étaient mis d'accord pour angoisser la vie du marié, tous unanimement se mirent à s'excuser. C'est d'où le titre, se mirent à s'excuser. Et aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il est clair que lorsqu'on n'a pas envie, les excuses glissent facilement. Et on a les moyens d'argumenter. Et on sait argumenter. Or, quand la dernière fois, je vous avais dit que la situation de l'Église Corps de Christ commence un peu à vaciller et que je vous ai dit ouvertement de la part de Dieu que la priorité n'est plus Christ. La priorité n'est plus Christ. Et on va voir 3 situations qui risquent, je dis bien, qui risquent de nous arriver. Mais si vous la vivez déjà, Dieu dit, il est temps de te repentir pour éviter de glisser dans la folie. Mais les 3 situations que je vais développer risquent d'arriver, mais si le Seigneur les présente, c'est que lui, il connaît l'avenir. Vous comprenez ça? Il connaît le futur. Il sait exactement qui d'entre nous risquons de glisser. Et donc, il dit, avant que tu fasses un choix mauvais, je vais commencer à t'avertir, jour après jour. Mais rappelez-vous que le premier jour, la voix se fait entendre audiblement. Mais si on refuse, Dieu, lui, reste toujours à sa place. Nous, on recule de 100 mètres la même voix, avec la même intensité, sera entendue deux fois moins. Et le troisième jour, quand vous reculez encore de 100 mètres, elle descendra jusqu'à ce que vous ne l'entendez plus. Pourtant, le Seigneur parle toujours. Mais comme il n'hurle pas, il parle au cœur. Sauf si ta chair, si notre chair enveloppe notre âme et l'esprit, c'est comme s'il y avait une barrière et on n'entend plus rien. On n'entend strictement plus rien. Alors, il est même dit, une parenthèse dans Matthieu 24, 12, pour que nous comprenions la situation qui commence à arriver au sein de l'Église corps de Christ. Il est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, alors on ne parle pas de l'iniquité dans l'Église, hein, parce que alors ça serait grave, mais l'iniquité est dans le monde. Or, nous vivons quelque chose actuellement, et si vous lisez dans les évangiles de Matthieu et de Luc, il est dit que au temps de Noé et au temps de Lot, ce qui se vivait, nous le constaterons aujourd'hui. Si vous lisez bien ce qui se passait au temps de Noé et au temps de Lot, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut savoir lire la parole de Dieu. Je répète et je le répéterai des milliers de fois, des millions de fois, parce que c'est le problème numéro un de l'Église. Notre problème, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Je suis cash, tranquille. Parce que si on lit la parole de Dieu, on saurait que ce qui se passait, ce qui se passe aujourd'hui, se passait au temps de Lot et de Noé. Donc, c'est un avertissement qui dit... Quand vous verrez ceci, ne soyez pas surpris, vous êtes dans les derniers temps. Ok ? Donc, c'est une réalité. L'iniquité se sera accrue, on le voit de plus en plus. Quand vous vous rendez compte que moi, à l'époque, si je disais à ma mère, à mon père, que j'avais dit une parole tordue à mon prof, j'étais pendu haut et court. Or, aujourd'hui, on vient avec des lance-roquettes pour démonter la tête d'un proviseur. Regardez, entre la différence d'une parole et des actes, nous sommes dans les temps d'iniquité. Où c'est comme au temps de Sodome et Gomorre, où les enfants accompagnés des parents voulaient sodomiser les hommes. Des enfants. Il n'est pas dit les adultes, les enfants, les moins jeunes et les plus jeunes, voulaient connaître deux anges. C'est dans la parole. Faut-il la lire ? D'accord ? Donc, on est surpris. Ça se faisait à l'époque. Donc il est dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est l'amour qui va se refroidir. Mais l'amour de qui ? L'amour en Christ, envers Christ. Si vous n'avez pas l'amour de Christ, vous ne pouvez pas l'avoir. Moi, je ne peux pas l'avoir pour vous, avec vous. Si mon amour se détourne de Jésus, elle va se détourner pour vous. C'est comme ça que ça se passe. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, plus mon amour se refroidira pour le corps de Christ, pour Christ, plus il se refroidira pour le corps de Christ, puisque le corps de Christ appartient à Christ. Et c'est ça, l'Église. C'est ça. Donc, plus j'entends et je fais confiance en ce qui se passe à l'extérieur et la crainte s'empare de moi, moins, puisque l'amour bannit la crainte. Or, celui qui a de la crainte en lui n'a pas l'amour parfait. Donc, tout est lié là. C'est 1 Jean 4, tout est lié. Si la crainte de ce qui se passe dans le monde prévaut, l'emporte sur l'amour que Dieu te donne en te disant « Ne crains pas, il faut que ces choses arrivent, mais je serai avec toi tous les jours de ta vie. » Si, c'est ça la foi. La foi, c'est de croire que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Donc, si la moindre occasion est pour toi une chute parce que tu as entendu telle ou telle chose, il est clair que tu vas passer une nuit terrible. Mais l'angoisse que tu suscites va transpirer sur tes enfants, qui eux-mêmes, parce que tu es leur modèle, veulent dire « mais si papa et maman tremblent, on a intérêt de trembler aussi ». Mais encore une fois, nous ne sommes pas les gens du monde. Nous sommes citoyens dans les lieux célestes, assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Vous comprenez la différence ? Est importante. Alors je suis. Une fois que vous avez compris que en fait, l'amour va disparaître, eh bien, on va expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tous ces invités refusent de se rendre au grand repas. Parce qu'ils refusent, en fait. Et il y a des raisons. Le doute, la peur et la honte. Tout ça, c'est un amalgame de ce qui se passe. La parole nous décrit trois sortes de personnes. La première vient d'acheter un terrain et son excuse est la suivante. je suis obligé d'aller le voir. Je suis obligé d'aller le voir. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais Seigneur, comment quelqu'un achète un terrain sans l'avoir vu? Il manque de sagesse. En fait, un terrain, ce n'est pas une baguette de pain. Ça vaut de l'argent. Et puis après, s'il est situé dans un endroit inondable, comme on voit aujourd'hui, enseignons-nous. Si jamais, dans ce terrain, à côté, je ne sais pas, moi, il y a plein d'HLM, et que toi, tu veux construire ta petite maison, et devant toi, tu as des immeubles. Si ce terrain, tu ne peux pas construire même. Pire, tu ne peux rien planter, parce qu'il est sableux ou autre. Vous vous rendez compte, vous dépensez des milliers d'euros, et après, vous dites, ben zut alors, il va falloir quand même que j'aille vérifier. On appelle ça, et c'est spirituel, alors ne vous projetez pas dans le visuel de ce que je suis en train de vous dire, en imaginant que vous achetez un terrain. Parce que Dieu parle, il donne un exemple, et il faut relater dans le spirituel. Il dit, qui d'entre vous, avant de faire un achat quelconque, ne consulte-t-il pas Dieu avant de savoir si c'est sa volonté et si derrière, tout est un bénéfice pour toi? Et si c'est un bénéfice pour toi, forcément, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, souvent, on consulte Dieu pour acheter une maison, parce que c'est important, 300 ou 400 000 euros, mais on ne consulte pas Dieu pour le reste. Et après, on se fait avoir et nos finances sont poux. Mais là, il dit, il y a un manque de sagesse, ce que je ressens dans mon cœur, de stabilité et la peur d'avoir fait un mauvais choix. Parce que c'est ça, je vous parlais doute, peur et honte. C'est parce qu'à un moment donné, il se dit, mais est-ce que j'ai bien fait d'avoir acheté ce terrain que je ne connais pas? Je vais vous dire un truc au fond de mon cœur, ça dépend de moi. C'est, je vais chercher mon mari sur Internet. Ah, j'ai vu une belle photo, mais maintenant on peut faire Photoshop, on peut tout transformer. Quand vous le voyez arriver, il y a une erreur sur la marchandise là. Ce n'est pas celui que j'ai vu sur la photo. Quand vous faites quelque chose, Dieu nous conseille en disant, ne faites rien sans m'avoir consulté. Les mauvais choix, combien on en a fait? Moi, j'en ai fait un très jeune de mauvais choix. Très, très jeune. J'avais 21 ans. Mais Dieu m'a fait grâce parce que à ce moment-là, je n'étais pas entouré de personnes compétentes spirituellement parlant. Mais parce que, justement, j'étais dans l'ignorance, que Dieu m'a fait grâce. Mais si je refais la même chose aujourd'hui avec la connaissance que j'ai, ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas du tout la même situation. Ce que fait un enfant à 5 ans comme bêtise est pardonnable, si la même est faite avec les conséquences d'une personne de 20 ans, c'est différent. Puisqu'à ce moment-là, il peut aller en prison. Mais dans cette situation, cette personne doit vérifier son achat car c'est sa priorité. Il a tellement peur et honte de s'être trompé qu'il dit non, 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 je ne peux pas aller dans ce repas. Parce que si jamais je me présente au repas et que quelqu'un sait que j'ai acheté ce terrain et qu'il sait que ce terrain, il est pourri, ça, je vais être la risée de tout le monde. Donc, il est préférable que je délaisse l'invitation afin que je cours pour voir exactement ce qui se passe et si je peux rattraper la situation. Or, si tu cours dans un sens, tu ne peux pas revenir dans l'autre parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Vous savez, la femme de Lot, Dieu avait dit, quiconque tournera sa tête pour regarder en arrière, c'est fini. Elle, n'ayant pas cru ce que son mari lui a dit, s'est retournée, elle est devenue une statue. Mais là, cette personne-là, pour moi, son principal problème, c'est que c'est une personne qui n'a pas de foi. Elle n'a pas de foi. Tout réside dans ce qu'elle pense ou de ce qu'il entend. Les mauvais conseillers. Ses choix de vie sont sa priorité. Je répète, ce genre de personne, ses choix de vie sont sa priorité. Elle décide de ce qui est le meilleur pour elle, sans avoir pesé, sans connaître les conséquences. Il ne consulte pas Dieu, ni la parole, ni par la prière, et cette personne-là n'a pas dit de piété. On voit beaucoup. Les gens disent, je n'ai pas le temps de prier, Je n'ai pas le temps de lire la parole. La piété, c'est ton témoignage que tu as de quelqu'un de Dieu, le témoignage de Dieu dans ton environnement. Ces trois éléments n'existent pas. Parce que c'est d'abord sa vie qui prime. Ce que je désire avant tout. Vous savez, on peut obéir par amour. On peut obéir par amour, mais on ne pourra jamais aimer par obéissance. Jamais. Jamais, 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 jamais. Impossible. Moi, j'obéis à Dieu par amour. Mais il ne m'a jamais demandé, par amour, de faire l'inverse. Alors, ses intérêts passent avant Dieu. Ça, c'est le premier exemple qu'il donne. Il n'est pas trop... Ça va aller en crescendo, de plus en plus compliqué. On en trouve beaucoup de personnes qui font des choix mauvais et qui après le regrettent. La deuxième personne, elle a investi dans un besoin onéreux qu'il a trouvé dans le monde sans chercher à le trouver dans le royaume de Dieu. Voilà, elle est allée voir, j'ai besoin de 5 paires de bœufs, ça fait 10 chez moi, et puis elle est allée les acheter. Or, encore une fois, ce n'est pas le problème d'aller acheter quelque chose dans le monde. C'est de consulter des fois entre frères et sœurs s'il n'y a pas d'autre possibilité. Si Dieu ne nous ouvre pas d'autres portes, si au lieu d'aller investir dans le monde, on ne pourrait pas et plutôt investir dans le royaume de Dieu. C'est dans cette vision-là que le Seigneur parle. Parce que là où il y a des bénéfices, c'est dans le royaume de Dieu. Les bénéfices, c'est dans le royaume de Dieu. Et ces bénéfices permettent après de réinjecter dans le royaume de Dieu pour d'autres. Et alors, la plupart de ceux qui œuvrent dans le royaume de Dieu et qui investissent financièrement parlant, hein, dans des entreprises et tout, réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'investissement dans le royaume de Dieu a forcément un bénéfice. Vous savez que quand Dieu a créé Adam et Ève, la première parole qu'il dit, multiplier, posséder et multiplier, posséder et multiplier. Quand il y a eu la radée, qui n'y a plus pendant 5 mois, qui n'existait plus personne, rebolote, il restait Noé, 3 frangins et 3 femmes. Et ce qu'il dit, il répète la même chose à Noé. Tout à niveau, il dit, multiplier, posséder. Multiplier, posséder. Il y a toujours cette vision de Dieu. C'est une parole qui vient du trône de Dieu. Et elle repartira au trône de Dieu, parce qu'aucune des paroles semées sur la terre ne retournera sans avoir fait son effet dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que si nous apprenons à être en communion constante avec Dieu, à parler avec Dieu à travers la parole et à obéir à Dieu, il y a forcément, puisqu'il ne peut pas faire autrement, Dieu bénit. Et le mot addition n'existe pas dans la parole de Dieu. Il y a toujours multiplication. C'est ça la vision. Mais cette personne a décidé d'acheter quelque chose d'onéreux, parce que je pense que 5 paires de bœufs, ça doit quand même coûter quelque chose. D'accord? Son intérêt est de savoir si sa dépense sera fructueuse. Donc, là, ça va plus loin. Le premier, lui, il a acheté sans savoir, et peut-être qu'il s'est fait avoir. Mais là, le type, il a acheté... mais dans un but bien spécial, c'est de se remplir ses propres poches. Il dit, maintenant, je n'ai pas le temps d'aller à ton repas, c'est bien, on va rigoler, on va boire un coup, on va manger, on va danser, super. Moi, une journée perdue, c'est 10 000 euros de perdu. Donc, il faut que j'aille mettre au travail mes bœufs pour qu'ils soient rentables. C'est d'abord mon intérêt, la rentabilité. Est-ce que ce que je dépense est fructueux ? Quand vous donnez quelque chose à Dieu, ne donnez pas en attendant quelque chose en retour. Ne donnez pas, parce que Dieu dit, garde ton offrande. Garde-la. Si tu penses que tu mets ta dîme, 10 euros, parce que quelqu'un t'a dit que l'évangile de la prospérité te fera gagner 100, c'est le plus grand des mensonges qu'on en entend encore aujourd'hui. Jamais Dieu a dit, mets 10 balles, t'en auras 100 derrière. Il dit, mets-moi au défi et tu verras si pour toi je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Pas dire que le problème, ce n'est pas ça qui va te donner, c'est au-delà de toute espérance. Seulement, il va donner selon tes besoins. Il ne te donnera pas selon tes caprices. il va donner selon tes besoins, car il te dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne répondra jamais à tes caprices, le Seigneur, parce qu'il connaît l'ingratitude qu'il y a en nous. Donc cette personne dit, j'ai des bœufs, moi je veux qu'ils me rapportent tout de suite. Sa vision du futur passe avant tout par la rentabilité. Voilà, j'investis pour la rentabilité. C'est ce que je désire, voilà. Par le profit, ce genre de personne cherche la notoriété et la reconnaissance. Parce que quand on cherche à avoir quelque chose qui nous revient, c'est pour montrer la réussite. J'ai réussi. J'ai réussi. Et quand on dit j'ai réussi, on démontre une forme de reconnaissance. On cherche la reconnaissance. Ce sont des gens malheureux. Pour moi, ce sont des gens malheureux qui cherchent l'appui, le soutien. Ils cherchent de l'amour. Ils cherchent de l'amour. Et comme ils ne peuvent pas l'avoir en eux-mêmes parce qu'ils ne sont peut-être eux-mêmes n'ont jamais connu l'amour, eh bien, ils la cherchent. Vous savez, une fois, je me souviens, je m'occupais des jeunes et à un moment donné, une maman me dit, mais je ne comprends pas ma fille. Elle dit, la maman dit, je ne comprends pas ma fille, son attitude et tout. Moi, toutes les semaines, je lui donne de l'argent de poche, elle devrait être contente. Et moi, je lui dis, mais madame, peut-être qu'elle veut autre chose que de l'argent de poche. Apparemment, elle ne vous voit jamais. Donc, peut-être qu'elle préférait une petite... un avec vous, que de l'argent de poche. Si vous essayez de gagner le cœur de quelqu'un, d'ailleurs, la parole de Dieu est claire, si tu cherches à gagner tout l'or du monde, mais que tu perds ton âme, en fait, on n'achète rien. La notoriété, la reconnaissance n'achètent rien. Moi, je sais, et j'entends, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en avant en disant, catalogue de tous les miracles que j'ai faits, donc voilà toutes les résurrections que j'ai faites, voilà toutes les âmes nouvelles qui sont venues. Donc, je suis quelqu'un quand même de connu, vous devriez m'inviter dans vos conférences. Je caricature, mais quand on invite quelqu'un, on ne fait pas la même chose? On ne fait pas une sorte de discrimination en disant, ah ben non, lui, il a fait ça, on va l'inviter parce que l'autre, on ne sait pas. Ce n'est pas de la discrimination dans le sens inverse. Alors que tout est fait par Dieu. Quel que soit le miracle que tu as fait, c'est Dieu qui l'a fait. Donc ce genre de personne cherche une forme de reconnaissance. Et la notoriété. Alors, tout ce que je vous dis, ce sont des exemples que j'ai vécus ou que j'ai vus. Vous m'entendez? Ce n'est pas des inventions. Et dans l'Église, malheureusement, si Dieu en parle, dans la parole, c'est que dans l'Église, il prévient que certaines personnes qui vont aller dans la réussite, eh bien, au lieu de continuer à investir dans le royaume, vont commencer à chercher une rentabilité, un profit qui leur est dû, qui leur convient. On voit ce genre de personnes dans la Bible. Salomon a eu tellement de richesses qu'après les conseils de Dieu se sont estompés. C'est pas qu'ils se sont estompés, ils les écoutaient de moins en moins. Il a écouté tous ceux qui étaient autour d'eux, de lui, surtout les femmes, puisqu'il en avait au total 1000 entre les concubines et les femmes. Et forcément, quand tu prends une femme que Dieu n'a pas désirée, tu prends les casseroles qui viennent avec. Un jeu de mots, hein. Bonne cuisinière ou mauvaise, mais souvent il y a de l'idolâtrie derrière. Et là, c'est là le souci. C'est là le souci. La reconnaissance et la notoriété, quand elle est connue, eh bien l'ennemi dit, ouf, c'est bon. Je vais te présenter quelqu'un qui va te dire, regarde, tu me connais, je suis connu dans le monde, investis avec moi. Sans se poser de questions, il va le faire. Sauf que derrière, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et on trempe. On met le petit doigt et tout le corps vient derrière. Et le Seigneur dit, faites attention, prenez garde quand vous êtes debout de ne pas tomber. Troisième personne. Alors non, avant de passer à la troisième personne, j'ai le Matthieu 6, 19 à 20 qui un peu explique la situation de la deuxième personne. Il est dit, Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Vous voyez, c'est Jésus qui dit, il met un avertissement, il met un conseil, il dit, il n'y a pas de problème que vous vous enrichissiez, puisque c'est dans Deutéronome. Vous aurez de grandes maisons, de belles demeures, vous aurez la santé, vous aurez de l'argent. Ça, c'est une parole de Dieu. On lit, ça fait partie des bénédictions dans Deutéronome. Or, il dit, faites attention de ce que vous en faites. Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Et comme vous m'appartenez, vous êtes censé, avant de faire quelconque dépense, de me prévenir. Je caricature, c'est un peu ça. Si je dis, entre vous, qui est esclave de Jésus-Christ ? Qui lève la main ? Vous êtes esclave de Jésus. Or, vous avez vu un esclave faire une dépense ? D'abord, c'est le maître qui lui dit, je te donne ta et tu vas acheter ça. En gros, on est toujours soumis à Dieu. Dieu renouvelle notre intelligence pour nous dire, voilà ce qu'aujourd'hui je voudrais faire avec toi. Ensemble, ce que l'on va faire. Ensemble, ce que l'on va acheter ou dépenser. Ensemble, ce que l'on va donner. Donc, si on commence à s'approprier les dons, les grâces, les appels et les ministères, si on se les approprie et que l'on en fait ce que l'on veut afin de récolter quelque chose de personnel, c'est ce que dit la parole de Dieu, vous verrez que la teigne et la rouille va commencer à gratter et tout ce que vous aurez gagné sera perdu. Vous n'aurez rien, une citerne crevassée. Une citerne crevassée. La troisième personne, alors là, pour moi, c'est la plus dangereuse. Vous allez me dire, ah. La troisième personne justifie son absence par un mariage. D'ailleurs, c'est la seule qui ne s'excuse pas. Et vous allez voir pourquoi c'est la plus dangereuse. Spirituellement parlant, Jésus définit cette personne comme étant naïve et très influençable, très manipulable. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui sont influençables, qui se laissent séduire facilement et manipuler. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et ce manque de connaissance est toujours lié à ton intimité avec Dieu. C'est toujours lié. Ce qu'un frère ou une sœur peut t'apporter, c'est 5%, mais le reste, les 95%, c'est toujours Dieu. Et beaucoup de fois, on se contente simplement du conseil et de la parole d'un frère et d'une sœur, mais ça ne nourrit pas comme Dieu voudrait nous nourrir. Et le reste, on ne l'a pas. Et donc, on dépérit au lieu de grandir. Donc, sa nouvelle vie, et je l'ai souligné à cette personne, ne lui permet pas de se rendre à ce repas. Pourquoi ? Le fait de dire, parce qu'elle, en fait, elle n'a pas fait d'achat. Elle n'a pas fait d'investissement. Elle dit simplement, et je me suis posé la question, je suis marié. Alors, où est le problème ? T'es libre, quand même. Et vous n'avez jamais essayé de réfléchir en disant, mais pourquoi ? Elle s'excuse en disant au maître, à celui qui a fait le repas, parce que je suis marié, je ne peux pas venir. Il n'a pas dit, je vais me marier le même jour. Il a dit, je suis marié. Et moi, c'est une question que j'ai ratée. Vous me connaissez maintenant. Moi, là, je ne bouge pas. Je dis, Seigneur, je ne vais pas autre part tant que je ne comprends pas l'excuse de quelqu'un marié qui ne se rend pas. Il devrait être heureux. Ah, tu te rappelles, chérie, il y a une semaine, c'était nous. Ah, c'est bien. Et puis, ils se réjouissent, ils vont voir les mariés. Oh, c'est super, ta robe est belle, ton alliance, enfin, tout ce qui se passe quand on voit le mariage. Et puis, c'est on dirait que les gens qui se sont mariés la semaine d'avant continuent leurs noces à travers. Il y a de l'euphorie. Non, là, la personne dit, je viens, j'y vais pas. Là, on gratte, et on gratte. Et pourquoi ? Parce que dans mon cœur, ce que Saint-Esprit a traduit, et c'est que de moi, si ça ne vous convient pas, jetez à la poubelle. Oubliez. Il vient de faire une alliance, un compromis qui n'était pas la volonté de Dieu. Encore une fois, ne réfléchissons pas terre à terre dans un mariage, mais qu'est-ce que représente un mariage ? C'est une alliance. C'est une alliance. Maintenant, nous sommes le corps de Christ. OK ? Vous savez, tous, autant qu'on est, que bientôt, un jour, on va se marier. Qui est convaincu de ça ? On va se marier. Donc, mais comme on n'est pas encore marié, on est considéré comment ? Fiancé, merci. Nous parlons de chrétiens. Jésus parle à ses disciples, il parle à des chrétiens. Enfin, pour nous futurs, quand on lit la parole, il ne s'adresse pas aux gens du monde. Il parle à des chrétiens qui, le jour où ils ont donné leur vie à Christ, ont fait une alliance nouvelle qui s'explique avant le retour de Christ par une alliance de fiançailles. Or, les fiançailles sont faites pour dire à tous ceux qui veulent l'entendre, je suis la future mariée de Jésus. Vous m'entendez ? Alors, une fois, c'est une parenthèse, quand j'étais en Guyane, il y avait une fille qui ne comprenait pas à quoi servaient les eaux du baptême. Et il m'est venu ça, cette pensée d'un coup. Elle me dit, j'aime Jésus, mais je ne comprends pas pourquoi il faut me baptiser. Et je lui ai dit, mais Seigneur, c'est compliqué. Et il me vient cette histoire. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes Jésus ? Oui. Et je lui pose la même question. Tu sais que tu vas te marier un jour ? Elle me dit, j'espère. Je lui ai dit, non, pas ce style-là. L'autre. Elle me dit, ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la Bible dit que. Et je lui ai dit, mais avant que tu sois marié, tu es quoi ? Elle me dit, spontanément, fiancé. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est fiancé ? À quoi servent les fiançailles ? En fait, les fiançailles servent simplement à dire au monde entier que j'ai une relation, enfin, une relation, vous m'avez compris, que je décide de faire ma vie avec cet homme et que ce sera relaté par un mariage d'ici tant. Donc, le monde entier sait qu'en fait, ces deux personnes sont prises, fréquentes. Et je lui dis, comment tu veux le faire savoir au monde entier ? Par les eaux du baptême. Ça m'est venu comme ça. Et la fille, elle dit, j'ai compris. Elle a dit après, maman, je vais me faire baptiser. C'était des fois les exemples spontanés. Et en fait, nous, c'est pareil. Alors, je reviens à cette personne qui dit, je suis marié, je ne peux pas aller à ton mariage. Parce qu'en fait, on ne parle pas de mariage civil, on parle d'un mariage spirituel, d'une alliance contractée avec quelqu'un d'autre, avec quelque chose d'autre, qui fait qu'en fait, tu avais donné ta vie à Christ en tant que fiancé, et que le monde entier savait que tu appartenais à Christ et que bientôt, à son retour, il y aura ce mariage officiel. Aujourd'hui, tu es fiancé. D'ailleurs, Joseph, quand il a su que Marie était enceinte, il a voulu secrètement rompre les fiançailles. Mais il n'est pas interdit de rompre des fiançailles. C'est fait pour ça. Or, il aurait fallu qu'elle soit honnête, cette personne, en disant, Jésus, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je me suis même marié. Alors que le Seigneur connaît toutes choses. Mais là, dans les alliances, il y a beaucoup d'alliances que l'on fait que Dieu ne veut pas. Si tu appartiens à Christ, tu ne peux pas appartenir à Mammon en reprenant les deux d'avant. D'ailleurs, je ne vais pas faire la liste de 2 Corinthiens 5. Quelle différence a-t-il entre le temple du Saint-Esprit et les idoles ? Quelle différence a-t-il entre Jésus et Bélial ? Quelle différence a-t-il entre les justes et les injustes ? Vous savez, dans les Corinthiens, c'est l'expression des alliances que l'on fait avec d'autres personnes. Si, c'est pareil, j'expliquais à quelqu'un qui me dit, il était chrétien, il ouvre une entreprise, il veut travailler pour Dieu, tout seul il n'y arrive pas, la première chose qui lui vient à l'esprit, au lieu de consulter Dieu, c'est d'avoir un associé non chrétien. Donc je lui dis, et tu penses que ton entreprise va fleurir ? Parce que si l'autre, ton associé non chrétien décide de camoufler de l'argent au fisc ou de prendre du black, tu fais comment ? Tu vas lui dire dégage alors que tu as fait un contrat ? Tu vas faire comment ? C'est trop tard. Ou tu lui rachètes les parts ou tu lui vends les tiennes. Mais si jamais il ne veut pas, t'es le pendu là. Mais parce qu'on ne consulte pas Dieu. Et là, le plus grave, c'est ça. En fait, cette personne est sujet aux tentations et séductions de la vie comme l'ont été Samson et Salomon. Salomon et Samson ont été séduits. L'un par toutes ces femmes qui l'ont amené dans une idolâtrie et la fin était terrible pour Salomon quand même, de comme il a commencé. Un peu comme Galate. Il a bien commencé, il finit mal. Et Samson, parce qu'il avait un esprit de vengeance et tout, qu'il a fait des choix intéressés pour se venger, il se laisse séduire par Delila. Il savait très bien que cette femme était une philistine. Qu'est-ce qu'il va fricoter avec une ennemie? Qu'est-ce qui s'est passé? Samson pensait qu'il avait le dessus à chaque fois. Nous, chrétiens, on pense, ah, je vais me marier avec telle personne parce que, à force de prier, Dieu va exaucer ma prière et il viendra au Seigneur. Moi, on s'est occupé pendant 10 ans, groupe de jeunes. Je brûle. Aucun de ceux qui se sont mariés avec des non-chrétiens sont dans l'Église. J'en prends ma responsabilité parce que c'est une de mes plus grandes tristesses. C'est une de mes plus grandes tristesses. Aucun de ceux qui se sont mariés avec des non-chrétiens sont dans l'Église. Et je dis, ils sont mais pleinement dans le monde. Ça, c'est la tristesse. Samson, il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il avait les cheveux longs et l'Esprit de Dieu, sa force sur lui. Mais le jour où il a révélé la situation, c'est fini pour lui. Même si la fin, il est mort en détruisant plus d'ennemis qu'il en avait tué pendant sa vie, ça fait rien. C'est un échec. C'est un échec. Un échec. Les alliances que l'on fait dans la vie nous amènent à nous retirer petit à petit de l'Église. Même si on est dans l'Église, on peut rester dans l'Église. Physiquement parlant, on est assis, on loue, on chante, on prêche, on prophétise, on chasse les démons, on guérit les malades. On finira ça tout à l'heure. Tout chrétien né de nouveau qui est dans le corps de Christ a une destinée spéciale. C'est son mariage avec Jésus. Et Jésus veut une église sans tache ni ride et irréprochable, lavée par l'eau de la parole. Sans tache ni ride. Donc souvent je disais aux femmes, vous ayant travaillé dans le cosmétique, vous n'aurez plus besoin de crème anti-rides. Ah, des économies pour investir dans le royaume de Dieu. Plus de crème anti-rides. Plus de rides. Parce qu'au lieu de vieillir, on rajeunit comme l'aigle. Mais ça, c'est le cœur intérieur. Bien sûr que le corps retournera à la poussière, comme dit la parole, mais il ressuscitera glorieux. Mais en attendant, si ton être intérieur, d'où vit l'âme et l'esprit, c'est là que Dieu veut travailler. L'extérieur, c'est ce qu'il est. Mais c'est l'intérieur, c'est ton âme. Et si ton âme fait des compromis avec ta chair, parce que voilà le compromis d'où il vient, puisque la chair fait la guerre à l'âme par des convoitises, vas-y, habille-toi comme ça, t'es à la mode. Regarde, fais comme ceci, sinon tu seras trouvé has-been. Sinon on va te dire, t'es un bon à rien. Mais la parole de Dieu, elle est la même, hier, aujourd'hui, éternellement, elle est immuable. Elle ne change pas. Maintenant qu'on cherche à modifier la parole de Dieu, moi, je me retire tout de suite. Je fais un pas en arrière. La parole dit ce qu'elle dit. Elle ne change pas. Et on dit, il faut interpréter la parole avec le temps. Alors, peut-être que je suis légaliste, peut-être que je suis dur, mais je préfère rester dans la parole de Dieu telle qu'elle est que de m'aventurer à quelque chose d'autre qui m'amènerait à faire une alliance que je vais regretter toute ma vie. Toute ma vie. Quand Dieu dit intègre, juste et droit en toute chose, parce que moi, dans mon cœur, c'est ma prière, je veux constamment entendre chaque matin et chaque soir, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ça a toujours été une parole qui a résonné dans ma vie dès ma conversion. Et je prie pour que je ne sois pas un objet de scandale ni quelque chose qui puisse vous choquer. Je désire rester en arrière de façon à vivre selon l'Esprit de Dieu pour être toujours un témoin selon l'Esprit de Dieu. C'est important. Donc les alliances, elles sont subtiles. La séduction parce que la fragilité. Maintenant, il est dit, pour étayer ça, Jacques 4:4, un passage que Jacques dit, c'est bien parce que la Bible répond toujours des fois à des attentes. Il dit, adultère que vous êtes. Il ne parle pas à des gens qui ont couché avec d'autres. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà votre adultère. L'intérêt que vous portez, que nous portons au monde. Alors je dis, plus tard. Si certains se reconnaissent aujourd'hui, ils ont droit, et ils doivent le faire, rentrer dans sa chambre, se repentre devant Dieu. Je dis, ce qui va arriver, ce que Dieu dit, il prévient que cette forme d'adultère, vous savez ce que dit la parole et qui est très dure, dure, dure. Et ça, je me dis, au milieu de nous, dans les derniers jours, certains ne soutiendront pas la persécution, c'est votre foi, et vont retourner dans le monde et vont trahir les frères et sœurs. Je n'ai pas le passage dans la tête. Donc, entre nous, peut-être que moi, dans 3 ou 4, Mathieu, dans 3 ou 4 ans, peut-être que je vais vous trahir. Comprenez? C'est Dieu prévient. Au milieu de son peuple, certains vont retourner dans le monde et vont trahir leurs frères et sœurs. Pire, des enfants trahiront leurs parents pour les mettre en prison. Les enfants des parents, ici, au milieu de nous. Alors on prie pour que non. C'est pour ça que Dieu dit, je préviens, j'avertis que ce sont des choses qui vont arriver. Voilà. Donc il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rende ennemi de Dieu. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de tolérance. Et moi, je vous le dis, je suis fatigué quand j'entends certains sermons qui disent, oui, mais oh, c'est pas grave, vous allez voir, on va s'en sortir. Oh, on va s'en sortir? Non. Dieu, par sa grâce, permettra que l'on s'en sorte. On ne va pas s'en sortir. La tolérance ne fait pas partie de la pensée de Dieu. Que ton oui soit oui, que son non soit non, tout le reste vient du diable. Donc la tolérance, c'est la tiédeur. Référence à 2 ans en arrière à Antoine sur la prédication de l'Odyssée, pour un oubli. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, comment notre Seigneur répond à cette situation? Parce que quand même, et à la finale, Dieu a toujours une solution, et diplomatique, mais surtout merveilleuse. Matthieu 22:8. Je vais quand même vous expliquer une situation qui va engendrer une autre situation. Matthieu 22:8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ça, c'est la dernière parole terrible. Hein. Ça veut dire qu'au milieu de son corps, au milieu de son peuple, certains n'étaient pas dignes. Judas est resté 3 ans et demi auprès du Seigneur. Il n'avait aucune dignité puisqu'il l'a trahi. On parlait de trahison. Combien, la parole de Dieu dit, ils vont retourner à ce qu'ils avaient vomi. Ils ont retourné à ce qu'ils avaient abandonné. Combien? Si Jésus le dit de sa propre bouche, c'est que cette situation va arriver. Et je vais vous dire, vous pouvez prier autant que vous voulez. Quand c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est décrété, c'est final. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement. Sinon, il n'aurait pas écrit. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu arrivera certainement. Comme il dit, la folie, la délinquance qu'il y avait au temps de Lot et de Noé, quand vous la verrez, vous avez beau prier, Dieu dit quand vous la verrez. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous allons voir et que nous voyons. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Faites attention, prenez garde et restez dans ma présence. Mais il dit aussi, et c'est là qu'il faut faire attention, et c'est le moment le plus sympa. Rappelez-vous qu'il ne faut pas dire un jour pour un jour. Il dit, mais il dit aussi qu'il prépare une grande moisson et qu'il appellera ceux qu'il considère comme dignes et fidèles. Vous savez, quand les serviteurs courent dans les rues, dans les places publiques, dans les chemins, et qu'ils cherchent, et qu'ils cherchent, et qu'ils cherchent. Or, il y a quelque chose que Dieu m'a interpellé et qui a réjoui mon cœur. Vous savez qu'à un moment donné, dans la lecture, je vais le reprendre, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Vous savez ce que c'est qu'une contrainte? C'est obliger quelqu'un. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, tu n'as jamais obligé quelqu'un à te suivre. Or, on parle dans les derniers temps. Mais il y a un passage, parce qu'il faut demander à Dieu, pourquoi tu fais la girouette là? Pourquoi à un moment donné, c'est comme ça et là, il y a des passages qui viennent répondre. Et c'est dans ce fameux Ésaïe. Voilà ce que dit Dieu. Une fois que cette situation s'est passée, qu'il appelle, et là on commence à vivre ces choses. On commence, mes frères et sœurs, à vivre ces choses. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. D'ailleurs, donc reconnais ce qu'il a créé. À cause de son avidité coupable, donc il parle des personnes qui sont tombées, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Traduction. J'en avais parlé un certain mercredi, il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est un peu ceux qui ont abandonné Dieu, un peu les fils prodigues, pour des raisons qui leur incombent, pas attristés, ou plein de choses qui les ont mis capoute. Au fond d'eux-mêmes, il y a toujours Dieu. Mais il est au fond. C'est pour ça que Dieu dit, je me suis retiré d'eux, mais sans vraiment me retirer d'eux. Je les ai laissés suivre leur voie pendant un temps. C'est ça que Dieu dit. Ils ont suivi leur chemin et il les considère comme des rebelles. Mais il ne les considère pas comme des méchants. Parce qu'après, il parle des méchants. Il dit des rebelles. Qu'est-ce qu'un rebelle? C'est quelqu'un qui se détourne de Dieu. Après avoir connu Dieu. Après avoir connu la grâce. Mais c'est une forme de rébellion qui n'est pas un reniement de Dieu. C'est parce que Dieu dit, vous ne pouvez pas crucifier une deuxième fois Jésus. Mais on ne parle pas de ceux qui sont retournés pleinement à ce qu'ils ont vomi. Il dit, il y en a certains qui ont vécu des situations, malheureusement liées à des témoignages d'autres chrétiens qui étaient mauvais, qui les ont... Et Jésus répète, il dit, je ne veux pas contester à toujours. Parce qu'il peut contester en disant, tu m'abandonnes, je t'abandonne. Ça serait juste, puisqu'il le dit à Israël. Si vous ne revenez pas de vos voies, vous périrez. Mais il dit, ni garder une éternelle colère. Dieu est en colère. Oui, Dieu est en colère avec nous sur certains points. Et il le dit. Mais quand il dit ça, c'est pour exprimer une miséricorde intérieure. Parce qu'il voit autre part. Et il voit les raisons de cette forme d'abandon. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, que j'ai créées. Donc on parle de création d'âmes nouvelles. Pour moi, ce sont des enfants nés nouveaux qui ont connu la grâce, mais pour des raisons X, Y, dans lesquelles je ne veux même pas savoir. Se sont éloignés de Dieu. Éloignés ne veut pas dire renier. Et il est dit, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je suis irrité. Je l'ai frappé. Et oui, quand Dieu dit frapper, ce n'est pas corriger avec la main, c'est-à-dire que la bénédiction, quelque part, s'est retirée. La bénédiction s'est retirée, la grâce s'est retirée. Mais dans le cœur, il y a toujours la notion de Dieu. Et il dit, ce rebelle a suivi le chemin de son cœur. Pendant un temps, ils ont laissé faire. Pendant combien de temps? Combien d'entre vous prient pour, ou le mari, ou l'épouse pour certains, ou les enfants, ou pour l'oncle, ou la tante, ou autre? Et qui intercèdent pour, parce qu'en fait, ils ont entendu la grâce de Dieu, s'en sont éloignés, et vous priez sans cesse. Pourquoi vous priez sans cesse? Parce que dans l'intérieur de vous, il y a toujours cette foi, il y a toujours quelque chose en vous qui vous dit, ne perds pas espoir. Il y a toujours quelque chose en vous qui dit, il faut continuer, il faut persévérer jusqu'au jour. Et Dieu dit, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, j'ai vu ses voies. Comment Dieu a vu ses voix à travers notre intercession, à travers notre prière. J'ai vu ses voix et il dit, je le guérirai. Je le guérirai de ce qu'il a déçu, de ce qu'il a blessé, de ce qu'il a éloigné de moi. Je le guérirai, je viendrai mettre le baume de Galade sur sa blessure et je lui servirai de guide. Mais ça c'est explosif ça. Tout à fait, tout à nouveau, le Saint-Esprit va le servir de guide et le ramener dans le troupeau. De la même manière qu'on casse la jambe d'une brebis égarée pour la ramener dans le troupeau. Dieu dit, j'ai vu ses voix, je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui pleurent dans l'intercession. Et quand il va y avoir le cœur qui va être appelé à Dieu, cet homme ou cette femme ou ces enfants vont commencer à pleurer de reconnaissance, mais en même temps de repentance. Ceux qui auront intercédé vont pleurer avec lui, mais des larmes de joie. Vous semez avec larmes de tristesse et vous récolterez avec chants d'allégresse. C'est ça mon espoir. D'un côté, certains vont se laisser aller jusqu'à retourner à ce qu'ils ont vomi. Ce sont les trois types de personnes, puisque unanimement, Dieu dit, vous l'avez fait ensemble, eh bien tous, je vous mets dehors. Dans Luc, c'est marqué. Tous ne viendront pas. Mais dans ce laps de temps qui est assez court, c'est ça la grande moisson, qui est là assez court, et je pense qu'elle a déjà commencé, eh bien, on voit les prémices, 2, 3, puis après 50, 1000, 3000, 1 million. Mais il y a toujours un début. Si on ne fait pas attention au début, aux petites choses, c'est comment on dit ? C'est l'abondance des petits ruisseaux qui font les grands fleuves, là. C'est ces choses comme ça. Si notre cœur ne se réjouit pas maintenant de l'avenir que Dieu a promis, parce que moi, je ne retiens pas les trois sortes de personnes. Dieu les a avertis et on ne peut rien faire que simplement de les avertir. Mais là où je me réjouis, c'est tous ceux que Dieu va chercher dans les places publiques, dans les haies. Pourquoi derrière les haies? Qui est-ce qu'il y a derrière les haies? Tous ceux qui se cachent. Tous ceux qui se cachent. Et il les contraint. C'est la conviction du Saint-Esprit qui dit, oh, il y a ta mère et ton père qui prient depuis 25 ans. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La veuve qui intercéda vers le juge. Et Dieu dit, et moi, ne vous ferai-je pas grâce si vous venez m'implorer chaque jour? Il y a toujours des réponses dans la parole de Dieu. Il y a toujours des relations avec la parole de Dieu. Mais faut-il encore la lire? Et c'est ça qui réjouit. Et je finis, parce que c'est 59. Merveilleux pour vos repas déjà préparés. Si tu trouves des excuses à ta situation, seras-tu pour autant excusé? Ça, c'est une question de la part de Jésus. Ou bien, tu t'excuses et tu te repens de ne pas avoir donné toute la première place à Jésus-Christ. Je répète, ou bien, tu t'excuses et tu te repens de ne pas avoir donné toute la première place à Jésus-Christ. Car Dieu dit, et c'est une parole qui m'a été donnée, fais-tu partie des oubliés de Dieu. Mais j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Et Dieu dit, mais je ne sais pas qui tu es. Fais-tu partie des oubliés de Dieu? Le problème dans les derniers temps, c'est que certains dans l'Église pensent pouvoir être maîtres du temps. Je répète, le problème dans les derniers temps que l'on vit, c'est que certains dans l'Église pensent pouvoir être les maîtres du temps, c'est-à-dire j'ai le temps. J'ai le temps de me repentir, en gros. J'ai le temps de revenir. Or, si le Seigneur vient ce soir, avertir, mais là, il n'y a pas de guérison. Donc, je finirai sur cette parole, parce que c'est des paroles simplement où il n'y a pas d'appel, mais de remise en question. Seigneur, garde-moi de ne pas tomber et de marcher jour après jour dans tes voies qui me gardent pour le salut éternel. Soyez bénis.